Salut à tous. Elle nous a raconté une des plus belles histoires d'amitié en BD, pas Tintin au Tibet non, mais plutôt Lola au Vietnam. Elle produit peu parce qu'elle met beaucoup de temps et d'énergie dans ces univers qui ont tous un point commun, un rapport très fort à l'enfance et à la famille. On vous emmène aujourd'hui dans l'atelier de Lolita Séchant.
Dans l'atelier BD, saison 2, un podcast original proposé par Paul Satis.
Bonjour Lolita.
Bonjour.
Au début de ton livre Les brumes de Sapa, lors de ton arrivée pour ton tout premier voyage au Vietnam, tu remplis un petit carnet avec les trucs à faire, comme par exemple acheter du scotch ou visiter les musées. Il y a aussi écrit « Découvrir qui je suis », c'est même souligné trois fois. Tu avais 22 ans à l'époque, c'était il y a longtemps. Est-ce que finalement tu as découvert qui tu es? Et on aime bien commencer un podcast avec une question existentielle bien large.
Je suis sur la voie, on n'a qu'à dire. Oui, quand même, j'ai affiné. J'ai fait des cercles concentriques pour arriver un peu plus à savoir précisément plutôt ce que je voulais faire, parce que qui j'étais... je pense que c'est une question qui n'aura une réponse que dans bien longtemps, parce qu'on change tout le temps, surtout. Mais oui, j'ai découvert ce que j'aimais, surtout, et ce que j'aimais pas, et vers où aller.
Et ce que tu aimes faire, c'est de la bande dessinée, qui est une vocation qui aura mis du temps à se concrétiser.
En fait, ce que j'aime faire, c'est raconter des histoires, et que c'est comme un vêtement, c'est-à-dire qu'il y a certaines histoires, ça tombe en bande dessinée, et d'autres, je pense qu'un jour, ça tombera plutôt en scénario de film ou en mise en scène cinéma. Mais pour l'instant, c'est la bande dessinée, oui.
Tu as la quarantaine maintenant, est-ce que tu te sens toujours un peu enfant, ou en tout cas très connecté à ce monde de l'enfance ?
En tout cas, ça me convoque tout le temps. L'enfance me convoque tout le temps, et même, je dirais, pire, j'ai envie de dire, plutôt l'adolescence même.
Alors le monde de l'adolescence, quand on entre dans ton atelier, on mettra bien sûr comme d'habitude des photos sur Instagram, on voit qu'on y est bien connecté, hein, parce que ton atelier fait un peu atelier d'ado, en tout cas il y a énormément de petites figurines manga, notamment d'Astro Boy, qui semble être un de tes personnages fétiches.
Oui, ça représente surtout une époque du manga, la grande époque pour moi du manga, des années 70-80. Et même avant, c'est tout le monde. Enfin voilà, c'est en France, on a vu débarquer avec le Club Dorothée à cette époque, dans les années 90. J'avais 10 ans, une vague de mangas en animé ou en papier après. Et moi, je suis très nostalgique de ça, donc je collectionne les jouets en plastique de cette époque-là.
Il y a beaucoup de mangas aussi, de bouquins. Hein. C'est quoi tes mangas fétiches ?
Mon manga fétiche, c'est Ranma 1,5, je dirais. C'est Ranma, Dragon Ball, c'est cette époque-là. Après, c'est Matsumoto, Taiyo Matsumoto, c'est Akira, évidemment. C'est l'âge, en fait, où j'ai pris de la distance avec la BD que mon père m'avait transmise. Sa passion à lui, c'était la BD franco-belge, donc j'ai grandi avec ça. Et moi, après, à 10 ans, enfin vers 12 ans, en fait, surtout, j'ai dit... j'ai voulu créer mon univers à moi et ma culture à moi, et c'est aller vers le manga parce que c'était ce qui arrivait en France, que c'était justement par rapport à la manière de traiter les thèmes de l'adolescence, il y avait quelque chose de plus sombre peut-être. Contrairement à la BD franco-belge où c'était des thèmes très enfantins, c'était de l'aventure, des choses comme ça, dans le manga tout d'un coup il y avait quelque chose de plus ambigu dans les thèmes et dans les sentiments qui m'ont parlé à l'époque. Et donc j'ai rangé mes Tintins et j'ai couru vers Rumiko Takahashi et les mangas de cette époque.
Et tu en lis toujours beaucoup?
J'en relis avec ma fille parce qu'elle est elle-même fan de Ranma et de tout ça, donc je lui passe mes mangas, je lui dis ça c'est un chef-d'œuvre, comme faisaient mes parents à l'époque avec des romans ou des disques. Et je lis, ouais, j'en achète encore en librairie. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me plaisent vraiment, mais il y en a certains qui m'accrochent.
Au-delà du manga, c'est même le Japon.
Oui, j'ai toujours été obsédée, enfin, comme beaucoup de gens de ma génération, hein, je pense, hein, on est nombreux. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, dans mon école, ma meilleure amie s'appelait Anna, elle était japonaise, et elle allait au Japon régulièrement dans sa famille, et elle me rapportait des stickers tout doux, en velours, et je passais des heures à dire « Mais c'est génial, un peuple qui a inventé l'autocollant en doux !» Le rêve, pour moi, c'était l'Eldorado d'aller là-bas. Elle me rapportait des carnets avec des dessins, justement, de tous les mangakas de cette époque-là. Et je pense que ça ne m'a jamais quittée.
Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a beaucoup de figurines. Il n'y a pas que du manga, d'ailleurs. Là, je vois en haut, il y a Tintin, Haddock et les Dupont, mais il y a juste leur tête. Là-bas, il y a un Monsieur Jack. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a vraiment énormément de petites figurines. Tu continues à en acheter ou tu aimes t'entourer de tous ces petits personnages ?
J'ai grandi avec un père collectionneur. Comme beaucoup de mélancoliques, les gens mélancoliques sont souvent des collectionneurs compulsifs quand même. On a besoin de s'entourer voilà, d'un cocon, de nos objets qui nous rassurent dans un sens. Et lui, c'était... c'était justement les BD de son époque, de son enfance, le journal de Spirou, Tintin, enfin c'était pas Spirou à l'époque. Si, c'était Spirou là.
Si, Spirou, ouais.
J'ai occulté tellement ça m'a lassé. Mais ouais, il avait tout ça, il avait des petites arbalètes en bois, il avait. Et il collectionnait les Pixies aussi, il allait beaucoup. En fait, on allait tous les week-ends dans la librairie BD franco-belge qui était Rudente, et il m'amenait tous les week-ends avec lui acheter des Pixies, acheter des petits objets comme ça, et il y en avait partout, du sol au plafond. À l'époque, on habitait dans un tout petit grenier dans le Marais. On n'avait vraiment pas la place et il n'y avait aucun mur droit. C'était qu'un grenier, donc les murs étaient inclinés. Et donc, il avait des dizaines de petits jouets comme ça, mais qui stockaient dans des cartons parce qu'il n'y avait pas la place de les mettre. Et un jour, on a déménagé à Montparnasse. J'avais 10 ans et il a ouvert tous ces cartons de jouets et on les a posés sur ses étagères. Il y avait des centaines de petits objets. Je pense que j'ai gardé ce côté collectionneuse quand même.
Ah oui, je peux le confirmer. Les murs aussi, hein, il n'y a pas un mur qui n'est pas plein d'images. Alors, il y a beaucoup de photos de ta fille notamment, mais il y a aussi beaucoup de dessins, beaucoup de reproductions. Il y a, voilà, là aussi, les murs sont très, très pleins.
Bah ouais, j'ai vu ça, donc petite, partout. Hein, avec, à l'époque, donc, mon père qui venait de gagner sa vie, quand il a commencé sa carrière, quand il a commencé à gagner sa vie, il était lui-même... Il est allé en salle des ventes et il a commencé à acheter un peu ce qu'il pouvait se payer en BD, donc quelques planches... de Calvo, de plein de gens, et il les affichait partout. Je grandissais du sol au plafond, dans les toilettes, les murs de ma maison. Après, quand on a eu des murs, voilà, c'était des dessins de Margerin, de tout le monde, quoi. Il y avait du Gaston, il y avait Natacha, il y avait Calvo, il y avait Chlorophylle, que j'adorais. Donc voilà, j'ai vu ça partout, c'était le paysage de mon enfance. Ça, je pense que, comme on essaye de garder le meilleur de son enfance, bah ouais, je le répète. La chambre de ma fille, elle est pareille hein, maintenant.
Pour ceux qui ne le sauraient pas, je ne sais pas si ça existe, mais éventuellement pour ceux qui ne le sauraient pas, tu parles de ton père depuis tout à l'heure, ton père c'est Renaud. On va revenir sur la passion de ton père pour la bande dessinée franco-belge, puisque ça, il te l'a transmise. Tu as parlé de cette collectionnite qu'il avait, de planches originales, de bouquins j'imagine qui étaient pleins de ta maison. Est-ce que dans ton enfance, tu fréquentais aussi des auteurs et des autrices ?
Alors dans mon enfance, pas trop. À l'adolescence, on a beaucoup fréquenté Petit Luc. Parce qu'ils étaient très potes et qu'ils venaient chez moi en vacances. Et moi, à chaque fois, je le coinçais dans un coin pour jouer au Pictionary avec lui. Et parce que comme ça, il dessinait et je gardais tous les dessins. J'adorais ses dessins. Et voilà, après, oui, il y avait Margerin et tout ça, mais on n'était pas trop entourés. Mon père, il était très timide. Donc finalement, les amitiés, il les nouait très, très laborieusement avec les gens. Il était un peu... Donc non, c'était vraiment de la lecture, en fait. Il me lisait des BD, ma mère aussi...
Tu disais tout à l'heure que tu as fini par t'en lasser de ce monde de la bande dessinée franco-belge, dont j'imagine que tes parents t'en ont fait lire pas mal aussi quand tu étais enfant.
Oui, alors mon père c'était Tintin, les Schtroumpfs, Johan et Pierre-Louis et tout ça, et Chlorophylle surtout, moi c'était mon préféré. Ma mère c'était plus Ernest et Célestine, des livres pour enfants, des albums pour enfants que j'adorais. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, il y a un moment, voilà, moi ça me... L'aventure m'a ennuyée, je pense. Il y a un moment où, en fait, avec l'adolescence est arrivée plus de gravité. C'est vrai qu'après, moi, j'ai eu une enfance très joyeuse et insouciante. Et après, vers 13 ans, ça a commencé à se dégrader. Des contextes familiaux un peu plus compliqués et tout. Et donc, je suis allée vers des choses plus sombres aussi. Et je pense que le manga, à l'époque, correspondait plus. C'était, du coup, la découverte du manga et après, du roman graphique américain.
Au début de ton bouquin, Les Brumes de Sapa, tu as 22 ans, on est donc avec toi, et tu es complètement perdu en fait, sur ce que tu veux faire justement professionnellement. Est-ce que l'idée de faire de la bande dessinée t'effleurait à cette époque-là ? On aurait pu se dire, tiens, pourquoi pas de la musique, mais tu as fait une école de cinéma. En fait, voilà, y a un peu, on sent qu'il y a une expression artistique qui veut sortir, mais tu ne sais pas trop bien laquelle.
En fait, moi, petite, dans mon lit, je me souviens très bien m'être dit, ok, tu ne feras pas de musique. C'était vraiment... comme on m'a souvent dit et que j'ai souvent pensé, c'est-à-dire que c'est assez complexe de grandir à l'ombre d'un grand chêne, comme on dit. Et en plus, un grand chêne, entre guillemets, que j'admirais, je respectais le travail et j'étais très connectée à l'œuvre de mon père. Ce qu'il a construit dans son œuvre s'était mis en pratique au quotidien, donc son éducation, il m'a transmis énormément de choses artistiquement. La colonne vertébrale artistique et politique que j'ai, c'est vraiment mon père et ma mère qui me l'ont donné. Mais donc je me suis dit très rapidement, ok, par contre, tu vas pas faire de musique parce que à quoi bon aller sur le même terrain, en fait, ça sert à rien. Pourtant, je pense que l'expérience de la scène était quelque chose qui me faisait fantasmer, c'est-à-dire l'amour qu'on reçoit quand on est sur scène et l'énergie qui va entre le public et l'artiste, c'est quelque chose qui m'aurait vraiment dopée, quoi. Je pense que c'est vraiment, j'ai grandi avec ça, c'est mes premiers souvenirs de vie, donc j'aurais... Mais je me suis vraiment dit, ok, va pas dans ça, ça sert à rien. Te comparer toute ta vie, être comparé par les autres et tout. Mais je savais que je voulais raconter des histoires, mais je savais que ça serait par différents biais ou différents outils, mais que ça serait pas en chanson.
Et c'était le cinéma, en fait, ta première idée ?
Bah, quand j'étais petite, je voulais être Picasso, donc...
en toute modestie.
Pas peintre, mais Picasso, je sais pas pourquoi. Ou marchande de glace. Mais... Bah oui, non, c'était le cinéma, en fait. Non, je suis passée par différentes études, en fait, quand même. Après le bac, moi, j'ai fait des études de psycho, parce que j'avais besoin de comprendre aussi ce que pouvait être la maladie mentale, parce que j'étais confrontée à ça dans ma famille, justement, avec mon père, et que j'avais besoin de comprendre ça. Donc je me suis lancée en psycho. En fait, c'était un peu de la survie, c'est-à-dire... Il y a eu un moment où j'ai eu besoin d'abord, moi, de me réparer ou de réparer des choses pour pouvoir arriver après à faire quelque chose. Donc j'ai commencé par des études de psycho, ça m'a lassée très très vite, quand j'ai vu qu'on allait passer 2 ans sur le symbole du couteau dans les rêves. Et donc je suis allée en école de cinéma et ça a été instantanément la révélation de ce que je voulais faire, c'était raconter une histoire. En plus, il y avait quand même la dimension sonore, qui, moi, me manque énormément dans la BD, donc... Chaque fois que je fais une BD, je pense au son, à la bande-son, en fait, au rythme. En fait, je découpe la mise en scène en pensant au son, au silence, au rythme, au craquement. Et ça, ça me manque énormément. Donc, je pense qu'un jour, je vais retourner vers le cinéma. Mais... Et en fait, c'est un hasard de vie qui m'a dirigée vers la BD.
Tu t'y as un peu essayé, je crois. Tu avais participé comme assistante à un film au Canada, c'est ça ? Qui s'appelle Wanted ?
Bah, en fait, j'ai fait une école de cinéma. Et à cette époque-là, donc c'était l'ESRA. C'était une école privée, mais l'avantage de cette école, c'est qu'on tournait vraiment avec des caméras en pellicule et on montait sur des vraies monteuses. Et c'était génial. Et à la fin de cette école, enfin tout le long de cette école de cinéma, j'allais voir évidemment mon père qui vivait quasiment dans un bistrot. Et il y avait tous les gens, la faune qui venait le voir tous les jours. Et parmi ces gens-là, il y avait un mec qui était réalisateur. On n'arrêtait pas d'en parler parce que moi, j'étais en école de ciné. Et puis il me disait, bah, si tu veux, le jour où je fais mon film, bah, tu seras stagiaire, quoi. Tu seras 12e assistante, teneuse de porte, quoi. Et je me disais, c'est génial, je vais finir mon école et je vais faire un stage. Et donc j'ai fini mon école, je suis arrivée au moment de faire des stages, effectivement. Et donc lui, il avait réussi à monter son film. À l'époque, c'était un film où mon père ne jouait pas du tout dedans. Il y avait Johnny Hallyday, il y avait Harvey Keitel, il y avait Richard Bourringer, Gérard Depardieu, Stéphane Fraisse et d'autres. Saïd Tagmaoui. Et donc moi, j'étais censée aller avec eux sur le tournage en tant qu'assistante, quoi. Et en fait, mon père a été jaloux. Au bout d'un moment, il a dit « Mais c'est pas cool, moi j'ai ma fille qui va bosser sur ce truc, j'ai mes potes, je veux y aller aussi, mais par contre, je veux pas trop me faire chier, je veux pas parler. » Donc il a demandé au réa de lui faire un rôle muet. Donc il s'est incrusté sur le film. C'est devenu un tueur muet. C'est pas un chef-d'œuvre, hein, ce film. Mais l'expérience du tournage était géniale. Enfin voilà, moi ça a été une super expérience.
Ça fait hyper longtemps, on pourrait dire que depuis tout ce temps-là, alors tu as pris plein de chemins professionnels, et notamment sur la bande dessinée, on va y venir bientôt, mais tu aurais très bien pu te lancer vraiment dans le cinéma. Pourquoi ? Tu dis j'ai toujours ça un peu en tête, mais voilà, et tu avances sur ce type de projet ?
Bah, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, justement, je sortais d'école et j'ai eu ce stage. Mais avant de faire ce stage, j'avais bossé dans un resto pour me payer un billet d'avion pour le Vietnam avec ma meilleure copine en me disant je vais prendre, à la fin de mes 3 ans d'école de ciné, je vais prendre 1 mois et demi pour aller voyager au Vietnam. Moi, à l'époque, j'étais un peu dark, comme vous l'avez compris. Et donc, je choisissais mes voyages en fonction des histoires dramatiques qui s'étaient passées dans les pays. Donc, j'étais allée à Auschwitz avec ma meilleure amie. J'étais allée en Pologne et en Allemagne, dans les camps, pour essayer de comprendre, je ne sais pas, d'aller sur les traces de l'histoire. Voilà. Et on avait décidé d'aller au Vietnam parce qu'il y avait eu la guerre du Vietnam et que c'était une histoire qui nous touchait aussi. Et donc, on avait envie d'aller voir comment vivent les gens... les peuples ayant vécu des histoires comme ça dramatiques. Donc on est parti au Vietnam toutes les deux, et c'est là que j'ai rencontré, au bout de ce mois et demi de voyage, de galères et d'aventures au Vietnam avec ma copine, j'ai rencontré la petite fille Mong, dont je parle dans ma BD, Lottie Gaume. Et en fait, elle m'est restée en tête, et sur ce, j'ai enchaîné le tournage sur le film, et donc je devais faire du cinéma. Et j'ai commencé à écrire cette rencontre avec cette petite fille, j'ai commencé à l'écrire en scénario de film. Et en fait, au fil du temps, j'ai écrit le scénario et je me suis dit que ça allait être beaucoup trop... que le format du cinéma ne collait pas à cette histoire parce que ça allait être très manichéen. Ça allait être vraiment l'histoire de la petite blanche privilégiée qui arrive et qui rencontre l'enfant sauvage, quoi. Et je voulais pas de ça, en fait. Et je voulais pas non plus être freinée par la difficulté de monter le film, avoir les financements, d'avoir des gens qui mettraient leur nez dans l'histoire et pas avoir de liberté. Donc en fait, je me suis dit, ça ferait un roman graphique génial. Enfin, génial, dans le sens où... pas dans le sens où je suis un génie, mais dans le sens
ça
où...
Ça fera un roman graphique.
Je pense que ça fera un roman graphique où je pourrais changer de ton, changer de rythme, avoir des phases sérieuses et aussi de l'humour, du loufoque.
Pourtant, c'est pas avec Les Brumes de Sapin, hein, qui est un énorme projet qui t'a occupé longtemps, qui t'a certainement hanté longtemps aussi, que tu vas commencer vraiment à raconter pour la première fois des histoires. La première fois, c'est une œuvre littéraire, en fait, quand tu étais étudiante, c'est ça, qui s'appelle « Les cendres de maman ».
En fait, j'étais à Montréal, c'était après mon école de cinéma, non, c'était à quel moment ? Oh, je suis perdue dans ma vie. oui, j'ai fait un certificat en création littéraire à Montréal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, j'ai toujours besoin d'aller très loin pour me chercher, parce que justement, alors là, je pense que c'est vraiment lié à mon père, c'est-à-dire que mon père étant connu et reconnu ici, on s'est construit tous les deux, comme tout enfant se construit face à ses parents, en miroir ou en contre-forme. Et il m'a beaucoup défini par les chansons qu'il a fait, parce que je pense qu'il a 20 chansons sur moi, que chaque étape de ma vie est dépeinte dans les chansons, que tout est vrai et que tout est faux en même temps, parce qu'il n'y a pas vraiment de vrai en création. Et que moi, je me suis beaucoup définie par rapport à... En fait, il s'inspirait de ma vie pour en faire des chansons. Les chansons devenaient quelque chose qui m'inspirait moi-même. Il créait un personnage, en fait. Et ce personnage, je savais que c'était moi sans être vraiment moi. Donc en fait, moi, ma manière de vraiment dessiner mes contours, c'était peut-être d'aller très loin, à l'étranger, parce que j'étais plus définie par le regard de mon père. J'étais plus définie par le regard des autres sur moi, parce qu'il y a quelque chose de très bienveillant, mais les gens ont une image forcément de moi à travers les chansons, qui est toujours positive, toujours gentille, mais c'est quand même une image préconçue, quoi.
Tu n'écoutes pas, dans Les Brumes de Sapin, tu fais écouter Mistral Gagnant à ton ami, à Gomme.
Oui.
Mistral Gagnant, toi, c'est ton histoire, et pour tout le monde, aujourd'hui, elle est classée chanson préférée des Français.
Oui.
Et on n'a pas le même rapport, moi, j'ai pas le même rapport à cette chanson que toi.
Non, c'est sûr, mais... Et en même temps, quand je lui fais écouter à elle, dans un marché perdu à 2000 mètres d'altitude, dans les brumes au Vietnam, je lui fais écouter l'histoire de mon père, en fait. Et je lui fais écouter à un moment important, parce que c'est un moment où elle me raconte qu'elle a une petite sœur qui est morte à l'âge de 4 ans, parce qu'elle a attrapé une grippe, et qu'à l'époque, les minorités ethniques du nord du Vietnam n'avaient pas le droit d'être soignées dans les hôpitaux vietnamiens. Parce que les Vietnamiens faisaient payer aux Hmong le fait d'avoir été des indiques aux Américains pendant la guerre du Vietnam. Et donc, en fait, elle me raconte que sa petite sœur est morte de ne pas avoir eu d'assistance médicale de la part des Vietnamiens, et que ça a déclenché une crise de folie de son père. Et que son père est parti dans les montagnes et qu'il a disparu pendant des mois. Et donc, moi, au moment où je lui fais écouter cette chanson, c'est parce que nos pères avaient des points communs. Et que je lui dis qu'en gros, ça parle de la nostalgie de l'enfance et que c'est l'enfant perdu. Donc, pour moi, à ce moment-là, c'est vraiment d'elle à moi que ça se joue. C'est pas le chanteur que j'impose à ma copine à ce moment-là.
Dans l'atelier BD de Lolita Séchant.
Ta première BD, elle est encore un peu liée à ton père, mais à ton frère surtout, qui est un enfant qui arrive, un petit frère qui t'arrive alors que tu as 25 ans, qui s'appelle Malone, qui est ton demi-frère en réalité, et que tu décides de raconter en bande dessinée. C'est ça ta première BD. Hein,
en fait,
que tu as appelé Marche Malone.
Ouais, en fait, quand j'étais au Québec, c'était pour m'éloigner, clairement. J'avais besoin d'être loin pour construire. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai fait mon premier livre, justement, Les cendres de maman, parce que le prof, en fait, de la fac, qui avait demandé qu'on écrive un livre de fin d'année dans le cours d'écriture, a aimé beaucoup le livre que j'avais fait et a voulu le publier. Donc, en fait, il ne savait pas qui était mon père. C'était neutre, en fait. Donc, mon premier livre est venu de ça. Ça traitait de la famille, ça traitait d'une petite fille qui voit sa mère peut-être éventuellement être kidnappée par un ramoneur, mais en fait c'est surtout elle voit sa mère tomber amoureuse d'un homme, et c'est comment la petite fille va lâcher cette idée de famille parfaite, comment elle va grandir aux côtés de sa mère qui elle-même va s'émanciper. Et c'était, voilà, mon premier travail a été fait à Montréal avec quelqu'un qui connaissait pas mon ascendance, et c'était un peu un hasard, ça m'a été proposé. Quand je suis rentrée en France, j'ai un copain qui galérait, qui n'arrivait pas à gagner sa vie, qui faisait du dessin, et je lui ai dit, si tu veux, on travaille ensemble, moi je t'écris des petits scénars, toi tu dessines, et comme ça on proposera à des magazines. Et c'est comme ça en fait que je suis rentrée dans la BD, parce que ce pote travaillait dans un cybercafé, et donc on s'est mis à bosser dans la cave du cybercafé, avec toute l'équipe de nos potes qui tenaient le cybercafé, et en fait on a créé un blog BD. C'était la grande époque des blogs BD avec Boulet, Marion Montaigne et tout ça. Et donc, on a créé nous-mêmes notre blog BD. Et en fait, j'ai commencé donc à faire des scénars pour mon pote qui dessinait. Ça a donné une BD qui s'appelle Todoloco, qui est complètement barrée. Je sais pas si tu l'as vue, mais je pense qu'aujourd'hui elle ne sortirait jamais parce que ça parle que de gamins exhibitionnistes, de... d'hypertrophie de testicules. Mais voilà, c'est un peu trashos. Mais... Et donc on a fait cette BD, mais à côté, pour meubler le blog, moi j'ai écrit des chroniques aussi. Donc je racontais un peu ma vie avec humour. C'était un peu des chroniques hypochondriaques. Et aussi, j'ai commencé à dessiner des choses sur mon petit frère qui arrivait avec 25 ans d'écart avec moi. Donc j'ai raconté comment, en fait, je me projetais dans le fait de devenir grande sœur. Ce qui n'était pas très serein, comme tout ce que je vis.
Tu dis un moment dans Les Brumes de Sapa, quand j'ai commencé Les Brumes de Sapa, et donc avant Marshmallow, je ne sais pas du tout dessiner en fait.
Ah bah non, je ne savais pas. Enfin, je dessinais comme ça pour le plaisir, mais j'avais fait une école, j'avais fait un an de prépa à Penningen, une école de dessin. Parce que en sortant de psycho, voilà, j'étais désespérée par la psycho, et donc mes parents m'avaient dit « t'adores dessiner, on t'inscrit à Penningen », et en fait j'ai trouvé ça atroce en fait. C'est l'éducation par castration, c'est les profs qui t'humilient, les filles... Les étudiantes japonaises qui débarquaient du fin fond du Japon et qui partaient en pleurs à chaque cours parce que les profs les humiliaient. Et moi, en fait, j'avais juste envie de faire de la BD. J'étais admirative de ceux qui dessinaient, mais il y avait une énorme compétition entre tout le monde. Donc j'ai fait un an, j'ai échoué au concours et j'ai laissé tomber, quoi.
Dans Marshmallow, c'est un dessin assez simple. Tu décides de faire tes personnages avec des petites oreilles de lapin, une espèce de costume de lapin. Il n'y a pas de décor quasiment. Donc c'est des petites histoires assez courtes, mais... Ton style graphique est presque immédiatement là.
Bah, c'est-à-dire que c'est comme d'habitude, c'est que je fais comme je peux. C'est-à-dire que comme je n'ai pas appris, je suis quand même autodidacte, je prends ce qui me tombe sous la main, je me débrouille pour camoufler ce que je n'arrive pas à dessiner. Donc les costumes à l'époque, ça me permettait de ne pas avoir trop d'erreurs d'anatomie, enfin, de pouvoir camoufler ça dans le costume. Et tout ce que je voulais, c'était raconter l'histoire, quoi. C'était quel est l'outil que je vais pouvoir utiliser au mieux ou au moins pire pour raconter mon histoire. Et c'est vrai que ça parlait déjà de la famille, en fait. C'était comment refaire famille, comment transmettre, comment se créer le lien, comment... Et j'explorais déjà ça, quoi.
Toujours avec de l'humour aussi.
Bah oui, vaut mieux. Hein. Comme disait Camille, j'ai réécouté le podcast que vous avez fait ensemble, Camille Jourdi. Elle disait, je pense que les grands désespérés et les grands angoissés, ils rigolent, quoi. Ils ont besoin de ça.
Donc venons-en maintenant aux Brumes de Sapa, qui est pour l'instant ton principal roman graphique, qui raconte donc le voyage dont tu parlais au Vietnam. Ce qui est marrant d'ailleurs, tu disais que tu l'as fait avec une copine, alors que dans les Brumes de Sapa, ce que tu racontes,
ouais, je l'ai enlevé.
T'as enlevé la copine.
Bah, je l'ai enlevé parce que en fait, ça n'apportait rien entre guillemets à l'histoire, et que en plus dans ce voyage, bah, c'est moi qui ai créé le lien avec l'Otigome, et en l'occurrence, on était côte à côte, mais elles n'ont pas développé ce lien, donc ça n'avait pas d'importance dans le récit. C'est là qu'on voit que bah, on a beau faire des récits autobio, pour le récit, tout n'est pas bon à dire, quoi.
Les Brumes de Sapa a été publié en 2016, réédité il y a quelques mois, une réédition importante, puisqu'elle est complétée de 20 pages supplémentaires dont on parlera tout à l'heure. D'abord, donc, on va rappeler cette histoire. C'est une histoire d'amitié assez incroyable qui se lie avec cette jeune fille, qui est une enfant d'ailleurs à l'époque où tu l'as rencontrée, de cette minorité Hmong qui vit au nord du Vietnam. C'est une rencontre assez improbable. Ce qui est improbable d'ailleurs, c'est ta volonté ensuite de retrouver cette petite fille alors qu'elle t'avait tout de suite effacée quasiment.
Oui, bah c'est ça. Moi, je suis assez butée, obsessionnelle. Donc, j'aime bien donner du sens aux choses. Donc, à partir du moment où sa rencontre m'a bouleversée, tout en ayant conscience d'être assez cliché dans le genre d'une touriste qui arrive dans un pays et qui dit « j'ai été bouleversée par une rencontre », je pense que ça arrive à beaucoup de gens. Donc, on est tous en quête de ça. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée au nord du Vietnam, après un mois, à avoir du mal à développer des liens avec les Vietnamiens, parce que, évidemment, on est forcément vu comme une touriste privilégiée. Et on l'est, d'ailleurs. Donc, c'est très compliqué de dépasser la première barrière. Et là, tout d'un coup, je m'assois sur cette place dans la nuit, et après un mois de mini-galère. Et cette petite fille qui a 12 ans, qui a l'âge de ma fille aujourd'hui, et qui s'assoit à côté de moi, moi j'en avais 22, j'étais un bébé aussi. Hein. Et elle commence à me parler. Et elle me parle, mais elle me parle cash. Elle me parle de sa vie, elle rigole. Je m'étais fait attaquer par des singes sur une île, donc elle se fout de ma gueule. Instantanément, il y a un vrai dialogue qui se crée. Et après, le lendemain, on se retrouve, elle m'emmène dans un bar où il y a des danses traditionnelles pour les touristes, faites par les petites filles Hmong. Et puis, dès que la danse est finie, avec les petites filles de 12 ans, 10-12 ans, la boule disco tombe. Et puis là, c'est la boîte de nuit qui commence avec quelques prostituées vietnamiennes, des gros touristes, la main sur leur cul, quoi. Enfin, et je suis là encore avec des petites filles à côté de moi, des minorités, et qui regardent ce spectacle qui, moi-même, me choque. Et là, Lotte Gaume me dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je comprends pas. Qui est cette fille? Qu'est-ce qui se joue? Et en fait, le fait d'assister à ça, d'assister à un monde qui bascule en fait, à un contraste aussi de monde, de cette espèce d'hyper tradition sublime des Hmongs, de leurs costumes faits à la main, de cette tradition ancestrale, et de ces petites filles qui sont confrontées directement au pire du capitalisme, au pire du tourisme et du libéralisme aussi, je me suis dit, mais c'est violent en fait. Il y a ce basculement, ce monde en basculement. Et le lendemain, elle est venue me dire au revoir, et moi j'y ai pensé pendant 2 ans. Enfin, je me disais, comment elle vit ce changement de monde. Et en fait, je pense que ça rejoint l'adolescence en fait. C'est une période où on bascule, où on est un pied dans l'enfance, un pied dans l'âge adulte. Et cette période de basculement, cette période de fragilité, parce que on a la main accrochée à quelque chose du passé, mais qu'il y a quelque chose du futur qui nous tire, ça me touche. Et je pense que c'est pour ça que j'ai cristallisé sur elle. Et j'y ai pensé tous les jours de ma vie pendant 2 ans. Et au bout d'un moment, je suis retournée la chercher. Alors là, c'est pareil, je le raconte pas dans la BD, mais je suis repartie avec ma mère, en fait. Au deuxième voyage, allez, 2 ans plus tard, j'ai pris ma mère et je lui ai dit, viens visiter le Vietnam parce que tu vas aimer. Et on va aller retrouver ma copine, Lotte Gaume. J'avais qu'un Polaroid. Donc j'ai amené ma mère, on a fait ce voyage ensemble. Et à un moment, dans la rue, au bout d'une semaine, à Sapa, je suis tombée sur elle. Et elle se souvenait pas de moi, évidemment. Et à partir de là, je me suis dit, bah, cette amitié, on va la développer. On va l'entretenir.
Et tu es revenue quasiment tous les ans, pendant une dizaine d'années quasiment?
Tous les ans, pendant 17 ans.
Pendant 17 ans?
Alors, les dernières années, un peu moins, parce que ma fille est née et que c'était plus compliqué. Tous les ans, pendant 13 ans. Et les dernières années, avec le Covid et tout ça, j'ai pas pu y retourner. Puis après, on a toutes les deux vécu des changements de vie, des choses comme ça, mais on a toujours été en lien. Et...
Alors, même s'il y a une différence d'âge de 10 ans, on a quand même l'impression, quand on lit Les Brumes de Sapa, ce que tu veux raconter, que vous grandissez ensemble. Toi, tu sais pas du tout, au début de l'album, tu sais pas du tout où t'en es, ce que tu veux faire dans la vie. T'es très perdu. Et elle n'a comme destin quasiment que de pouvoir se marier, mais elle lutte contre ça. Mm-hmm. Et vous grandissez ensemble au fil de ces années.
Bah, on se retrouve, en fait. C'est ça qui est fou. C'est que c'est comme ces liens très forts, mais qui sont pas quotidiens. Donc, à chaque fois qu'on se retrouve, il y a à la fois quelque chose qui est intact, de l'ordre du lien, quoi, de cette connivence. Et à la fois, on a vécu des grands changements. Et en plus, bon, aujourd'hui, ce qui est fou, c'est qu'on est les mêmes quasiment. C'est-à-dire, on se fait des visios, on dit, attends, je te rappelle dès que j'ai couché mes filles, on se fait un petit apéro, attends, il y a ma petite qui a perdu une dent. Voilà, enfin, du coup, on a nos filles derrière nous en visio. Et elle a, voilà, elle a 32 ans, elle a 34 ans, moi j'en ai 43. Et finalement, on a presque des vies similaires de mères divorcées, en garde alternée. Mais à l'époque, moi j'avais des gros questionnements existentiels parce que j'avais beaucoup de choses à digérer. C'est pas une question de célébrité, je pense que beaucoup de gens peuvent calquer l'idée que c'est parce qu'un père est connu qu'il faut trouver sa voie. C'est pas tellement ça. Moi, mon père est malade, il est psychotique, quoi, donc... dépressif et alcoolique. Donc, grandir avec ça, j'en parle ouvertement. Avant, j'en parlais pas, aujourd'hui, j'en parle parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça, quelle que soit la famille, et on n'en parle pas assez, je trouve. Et c'est assez compliqué de se construire à côté de quelqu'un aussi fragile, même si c'est quelqu'un de vraiment gentil, qui est profondément gentil. Et donc, moi, j'ai eu besoin de temps pour me stabiliser sur ça, de comprendre comment lutter contre ça, comprendre comment trouver ma place. Le bon équilibre entre la colère et l'accompagnement, entre le mal que ça pouvait me faire et en même temps la nécessité du lien, parce qu'on est très proches, tous les trois avec ma mère. Et voilà, c'est comment trouver sa place. Et elle, Gaume, c'était des questions... Bah, elle n'avait pas le luxe de ces questions existentielles. D'ailleurs, il y a quelqu'un en dédicace qui est venu là à Angoulême me voir et qui m'a vraiment touchée. On était tous les deux à pleurer comme des idiots un peu. Parce qu'il me disait, moi aussi, j'ai connu une quête comme ça, mais... j'ai eu le luxe de me poser ces questions existentielles. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement en survie qu'ils ne peuvent pas se poser ces questions-là. Et moi, je pensais à ça tout le temps quand j'écrivais Les Brumes de Sapa, c'est surtout, aie toujours conscience que tu as le luxe de te poser ces questions et que Gaume ne l'a pas. Donc je ne voulais pas la trahir, je voulais vraiment être capable de rendre compte des problématiques qu'elle avait dans sa vie qui n'étaient pas les miennes. Après, elle pouvait se retrouver parce qu'elle a aussi un père psychotique qui a aussi des phases de paranoïa et tout ça. Donc en fait, on avait tout d'un coup ce lien qui était incroyable, même de découvrir qu'en fait, on avait tellement de points communs dans nos familles, c'était alors que tout nous oppose, vraiment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la réédition a été importante pour moi, parce que aujourd'hui, elle a beaucoup bougé aussi sur tout ça, et que j'avais envie de reparler vraiment de son parcours à elle, de comment, au Vietnam, on prend en compte la maladie mentale, comment Enfin, c'est encore voilà, très archaïque, quoi. Donc,
c'est plus que de l'amitié, hein. C'est de la sororité, d'ailleurs. À la 2e ou 3e rencontre, vous vous déclarez sœur l'une de l'autre.
Ah, c'est elle qui a tout de suite dit ça, parce que alors moi, bah, du coup, j'avais pas tellement de notion de sœur ou de frère, parce que j'étais fille unique. Au fil de notre amitié qui s'est développée, mon demi-frère aîné, c'est très compliqué de développer un lien quand on a 25 ans d'écart. Et donc, j'avais pas cette notion-là, mais c'est vrai qu'avec elle, elle a pris la place de petite sœur. Elle a pris la place, c'est elle qui l'a dit. Et c'est vrai qu'à l'époque, ben, quand j'ai commencé cette BD en 2011, on parlait pas de sororité, hein, c'était pas tellement les termes à la mode, mais que c'était tout le temps là. C'était sous-jacent à tout, c'est-à-dire c'était tout d'un coup comment deux expériences de femmes à un âge différent, dans des pays différents et des cultures très différentes, avaient tous les points communs en fait. C'est-à-dire que nos expériences de femmes, on a toutes les mêmes problématiques. L'émancipation de nos familles, comment s'épanouir dans notre travail, amoureusement ou en tant que mère ou pas. En fait, ça dépasse le problème de niveau social ou de classe sociale.
Il y a une dimension politique aussi clairement assumé dans ce livre. Tu l'as dit, Gaume est issu d'une minorité, la minorité Hmong, hein, qui est vraiment maltraitée. Y a encore des traditions ancestrales qui font qu'évidemment, elle n'a pas du tout la même vie que de femme que toi tu peux avoir dans un pays comme la France. Tu tenais vraiment à cette dimension politique ?
Pour moi, c'était presque la dimension la plus importante, même si je sais que les gens qui lisent la BD se disent pas que c'est forcément la dimension la plus prégnante. Mais... pour moi, en fait, tout était lié. De toute façon, pour moi, tout est politique, en fait. Donc, le regard qu'on porte sur le monde, il est politique dans le sens où tout est un peu un engagement, surtout quand on a la parole. Donc, et c'est vrai que pour moi, Gaume, en fait, ce qui m'a touchée dans son histoire et ce qui a fait aussi qu'on est devenus amis, c'est qu'elle vivait une injustice totale. Pour moi, il y avait... et ça, c'est vraiment une transmission de mes parents, je pense. Mon père, il m'a élevée en disant, et ma mère aussi, mais en disant... Regarde les gens, vois comment ils vivent, voilà l'humanité en fait, comment on arrive à composer avec nos humanités différentes et avec et quand j'ai vu Gaume et que j'ai compris, que j'ai découvert l'histoire des Hmong, que j'ai découvert que ce peuple avait ses traditions et qu'il avait été maltraité dans plein d'endroits en Asie du Sud-Est parce que au Vietnam ils étaient tolérés parce que ça faisait de l'argent, parce que en fait en vendant leur artisanat et en faisant découvrir leur village et leurs traditions aux touristes, les Vietnamiens percevaient une partie de cet argent et ça rapportait de l'argent. Donc comme c'est très capitaliste, bah, ils les ont tolérés. Mais en Thaïlande, par exemple, les Hmong vivaient dans des camps ou parqués dans la... Il y avait une guérilla, ils vivaient dans la forêt avec un... Ils ont vraiment eu une histoire très compliquée. Je pense qu'aujourd'hui, ça change. Moi, quand j'ai connu Lotie Gaume, elle n'avait pas de passeport, elle n'avait pas le droit de voyager, elle n'avait pas accès à l'école et ni à la santé.
C'est parce que tu voulais raconter ça que tu t'es lancée dans les brumes de Sapa ?
Oui,
vraiment. Plus que l'histoire d'amitié elle-même ?
Bah, C'était indissociable, en fait. En fait, j'ai vu quelqu'un qui était à ce moment de basculement et avec cette injustice et cette ultra-lucidité et très grande intelligence qui la rendait malheureuse. Alors ça, on peut se poser... Voilà, moi, ça fait 25 ans que je suis en analyse, donc je connais bien les raisons de tout ça. Je sais pourquoi ça m'attire, mais... C'est-à-dire que cette conscience qu'elle avait ne lui amenait pas de bonheur, pas d'apaisement. Et c'était ça que je voulais saisir, en fait. C'était la tristesse de ces gens hyper lucides, comme les hypersensibles, voilà, les gens... les mélancoliques, quoi. Et c'est marrant, parce qu'après, hein, j'ai voulu faire un autre projet sur un centre social à côté de chez moi, et c'est pareil, j'ai développé une grande amitié avec une femme qui était algérienne, vivant en France depuis 25 ans, travaillant dans une structure publique, dans la santé, avec un très grand idéal et beaucoup d'injustice, une grande conscience de l'injustice, et très malheureuse. Très malheureuse aussi, c'était une femme qui était plus âgée que moi, mais qui était pareil, un pied entre deux mondes, entre deux cultures, avec l'envie de changer les choses et l'incapacité de le faire.
Dans l'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis.
Cette nouvelle édition est assez essentielle, hein, parce qu'on, évidemment, nous lecteurs, on a envie de savoir, après avoir lu Les Brumes de Sapa, ce qui se passe derrière. Une fois que tu quittes Gaume au moment où elle va se marier, tant pis pour le spoil,
ouais.
Mais tu racontes dans cette nouvelle édition, en 20 pages, tu mets vraiment vos deux vies en parallèle, hein, la tienne, il s'est passé beaucoup de choses pour toi dans cette décennie, beaucoup de choses dans la sienne, vous avez été mères toutes les deux, vous avez vécu un divorce toutes les deux. On est vraiment dans vos intimités à toutes les deux, d'ailleurs, dans ces 20 pages qui sont relativement courtes, mais incroyablement dense.
Disons que je suis plus impudique dans ces 20 pages, je pense, que dans les 300 pages de la première version de la BD. En fait, c'est mon éditeur l'année dernière à Angoulême qui me dit « La BD est toujours en librairie, elle marche toujours, elle est rentrée dans les fonds des librairies parce qu'elle marche bien, j'en ai vendu pas mal au fil des années. » Et il m'a dit « On va la réimprimer pour qu'elle reste en librairie. » Et je lui ai dit « Bah, en fait, moi, à chaque fois que je suis en dédicace, les gens me demandent la suite. Qu'est-ce qu'elle est devenue ?» Parce que c'est vrai que dans la BD, en fait, j'ai raconté que quelques années de notre vie, en fait. Mais comme ça fait 17 ans, forcément, il s'est passé plein de choses. Et je me suis dit « Bah, quitte à la réimprimer, autant faire un bilan, en fait. » Parce qu'on me demande souvent ce qu'elle devient. Et qu'il y a peu de temps avant, je l'avais eu au téléphone et elle m'avait dit en anglais, parce qu'on parle en anglais, « You know, Lolita, woman in the world, we fight, but we are very tired. » Les femmes du monde, on se bat, mais on est vraiment fatiguées, quoi. Et quand elle m'avait dit ça, c'était déjà il y a quelques années, et je m'étais dit, mais oui, c'est ça, quoi. En fait, c'est ça partout, c'est ça tout le temps, en fait. Et c'était ce que j'avais voulu déjà dire dans la première version de ma BD, et j'avais envie de revenir sur ça, en fait. J'avais voulu montrer aussi comment elle a réussi à se battre et finalement contourner tout ce qu'on lui a imposé dans sa culture, parce qu'elle a été mariée plus ou moins de force, elle a réussi à divorcer, alors que c'est inacceptable chez les Hmong. Elle s'occupe de sa fille en garde alternée, elle a construit un commerce, elle a réussi à avoir un commerce alors que les Vietnamiens ne voulaient pas que les Hmong accèdent au commerce, enfin aux achats d'un bail. Elle l'a réussi. Enfin voilà, elle a réussi à contourner tous les interdits, pas tous, parce que quand même, encore aujourd'hui, elle est très dépendante de son mari. Enfin voilà, elle dit qu'est-ce qui va m'arriver ? Aujourd'hui, je suis méfiante, parce que qu'est-ce qui va m'arriver si le jour où mon mari me trouve grosse ou moche ou inutile, si je rapporte pas assez d'argent, est-ce qu'il va me jeter et prendre une autre femme ? Et qu'est-ce que je vais devenir ? Donc à côté, elle bataille, elle, pour construire les choses qui resteront si jamais ça devait arriver, quoi.
Dans cette nouvelle édition, elle fait une postface qui est très très touchante, où elle dit notamment ce qu'elle te doit. Enfin, parce que tu l'as fait voyager pour la première fois. Quand elle lui ça, je sais pas, tu avais les larmes aux yeux, j'imagine.
Bizarrement, c'est pas sur ça que j'ai eu les larmes aux yeux, parce que c'est-à-dire au moment où j'ai fait lire la BD, la première version, donc à mon père et à ma mère. Mes parents, c'est des gens qui ont toujours été ultra bienveillants. C'est-à-dire tout ce que je fais, ils vont m'encourager. Donc quand j'ai fait lire ma BD qui m'avait pris 5 ans et sur lequel j'avais vraiment galéré. J'avais très peur que mon père me dise c'est impudique, tu parles de moi en clinique, tu parles de notre intimité, c'est difficile. Et en fait, il m'a dit j'ai pleuré à cause de l'histoire de Gaume. C'est elle qui m'a touchée. Et lui, il s'est pas vu en fait. Il m'a dit c'est elle qui me touche et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Et là, c'est pareil en fait. Quand on a pensé faire la réédition, que moi je me suis dit ok, je vais faire un bilan. On a refait des visios avec Gaume beaucoup plus souvent. On s'est beaucoup vu, par visio, on a beaucoup parlé. Et très rapidement, je lui ai dit, je voudrais que toi, tu racontes maintenant. Parce que moi, je t'ai pris la parole, en fait. J'ai pris ta parole et j'ai essayé de la retransmettre le plus fidèlement possible. Mais maintenant, en fait, t'es adulte et c'est à toi de la prendre, cette parole, en fait. Je veux plus parler à ta place. Donc, on a fait des visios. Elle m'a beaucoup parlé en anglais. Elle m'a raconté comment elle nous voyait, comment elle avait vu se développer notre amitié, tout ce qui l'avait surprise à l'époque, tout ce qu'elle m'avait jamais raconté, évidemment. La vision qu'elle avait de moi à l'époque, enfin, j'avais aucune idée en fait. Évidemment, ça m'a touchée, mais dans un sens, quand on a une amitié forte, on sait pourquoi. On sait que c'est réciproque. Donc, non, moi, ce qui m'a le plus touchée dans sa postface, c'est quand elle parle de ce qui se passe au Vietnam, de ce qui se passe pour les femmes Hmong, de ce qui se passe pour le territoire en fait, la montagne qui est en train d'être bousillée, construite, l'argent en fait, l'argent qui déforme le paysage, qui détruit les gens.
Ce que tu racontais tout à l'heure, hein, c'est quand tu es arrivé la première fois, l'occidentalisation de cet endroit qui était encore relativement authentique était en marche, mais là, on a vraiment dépassé ça.
C'est ce qu'elle me dit dans la postface, elle me dit « tu ne reconnaîtrais pas ». Elle me dit « tu serais terriblement triste parce que la montagne que tu aimais, là où on s'arrêtait pour regarder le sommet, il n'existe plus, il y a un énorme resort ». Américain, les balades qu'on faisait dans son village, aujourd'hui c'est des maisons, on pourrait dire comme des sortes de maisons témoins, où en fait ils amènent les touristes pour voir les Hmong, pour vivre comme vivent les Hmong.
Tu y es pas allé depuis longtemps ?
J'y suis pas allé depuis 2015, j'y suis allé
ça va faire quasiment 10 ans.
Ouais, j'y suis pas allé. La dernière fois que j'y suis allé, c'était avec le père de ma fille, je voulais lui faire rencontrer Gaume, quand même, après 8 ans à lui en parler, donc on est allé là-bas ensemble. Et après, je me suis séparée, donc j'ai dû me remettre de tout ça. Il y a eu des problèmes dans ma famille, dans la sienne, il y a eu le Covid. Et donc, j'ai jamais amené ma fille, quoi. J'aimerais bien que nos filles se rencontrent.
Dans le bouquin, à un moment, Gaume dit qu'elle rêverait d'aller à Paris. Elle n'est toujours pas venue à Paris, te voir ?
Non, elle n'est pas venue à Paris parce qu'à l'époque où je voulais la faire venir, c'était très compliqué parce qu'elle avait très peu d'argent et elle n'avait pas de papier. Et en fait, mon père m'a dit, on l'a fait venir. On ne peut pas déraciner quelqu'un comme ça, en fait. D'ailleurs, elle le dit, hein, à partir du moment où je lui fais voir d'autres villes, d'autres modes de vie, et que je lui fais rêver à un autre avenir, ça la rend aussi malheureuse. Ça entraîne aussi une sorte de tristesse, parce que elle le dit dans la BD, elle dit « Quand j'étais petite, mon rêve était de manger un poulet entier. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis acheté un poulet, j'ai tout mangé, j'étais malade. » Et elle dit « Petite, mon rêve, c'était d'avoir ce poulet, je l'ai eu, et maintenant mes rêves sont de plus en plus grands, et je sais que ça va être dur d'y accéder. » Et c'est vrai que quand la question s'est posée de la faire venir à Paris, je voulais pas non plus la déraciner, c'est pas possible en fait. Donc, et pour la faire venir, il fallait lui mettre 7000 euros sur un compte en banque, il fallait garantir au gouvernement français qu'elle allait bien retourner dans son pays, qu'elle allait pas vivre au crochet de la France. On s'est retrouvés confrontés à un truc qui nous a un peu dégoûtés toutes les deux. Et on s'est dit, on va attendre le moment où elle aura des papiers, où elle aura... Et là, je pense que ça va se faire, parce que déjà, je vais y aller avec ma fille, et puis après, on va essayer de la faire venir ici. Mais elle fantasme beaucoup quelque chose qui serait assez génial ici, alors qu'on sait très bien que la vie ici, elle est dure aussi. Hein.
Comment s'est passée la conception de cet album ?
En fait, j'y suis allée pendant des années, je tenais des carnets, j'écrivais tout ce qu'on se disait, tout ce qu'elle me racontait. Comme vraiment, j'y allais deux semaines toute seule, donc j'étais beaucoup toute seule. Hein, donc mon moyen de m'occuper mes journées, c'était d'écrire et de dessiner un peu. Donc j'avais accumulé beaucoup de choses, et quand j'ai écrit le scénario, je me suis dit « je m'arrête à son mariage ». Il y avait mon mariage et son mariage, en fait. Mais sauf qu'en fait, on avait vécu beaucoup d'autres choses derrière. Il y avait eu beaucoup d'autres choses. Mais pour moi, le scénario se tenait. C'était ça, c'était une boucle. C'était comment on quitte notre famille de naissance pour aller vers la famille qu'on veut construire après. Et donc non, j'avais déjà la suite, Et je savais que je voulais pas le raconter. Et c'est pour ça que ce supplément... comme je lui ai demandé à elle de me raconter des choses très intimes, je me suis dit, je suis obligée de jouer le jeu. Et donc, moi, je vais devoir raconter aussi des choses très intimes que j'avais un peu éludées dans la première version de la BD, parce que je ne montre pas vraiment les visages de mes parents. Je ne m'appesantis pas sur les détails, sur les problèmes et tout ça. Là, c'est vrai que dans le supplément, bah, c'est vraiment sous forme de notes de blog, en fait. Je raconte mon accouchement, je raconte le sien, je mets de l'humour. Évidemment, plus d'humour sur mon passage à moi que sur son passage à elle, parce que je ne me permets pas de faire des blagues sur ce qu'elle vivait. Non, j'avais plus que ce que j'ai mis dans la BD.
Et c'était un moment compliqué de faire cette bande dessinée. Il a fallu te confronter, notamment graphiquement, aux paysages du Vietnam, qui ne sont pas si évidents. On retrouve aussi ton style graphique noir et blanc avec plein de petits traits, comme tu fais assez souvent. Ça a été, comment tu as abordé graphiquement cet album ?
Ce style graphique, il s'est construit à l'époque, hein, parce que c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, j'ai écrit ce scénario et je me suis dit, bon, bah maintenant, prends le stylo qui te tombe sous la main et prends la feuille. Donc, c'est une feuille d'imprimante, en fait. C'est ma feuille. D'ailleurs, je travaille encore sur ça. Hein. Donc, j'ai écrit mon scénario, il faisait 100 pages et je savais que ça ferait 300 pages de BD. Et après, je l'ai adapté. J'ai fait un séquencier, j'ai fait comme un film, c'est-à-dire extérieur jour, Vietnam, nanana, avec quelques bouts de dialogue et quelques descriptions. J'ai eu la chance à cette époque-là de rentrer en atelier. Donc j'étais en atelier à Bastille avec Keck, je ne sais pas si tu connais.
Non seulement je le connais, mais je vous invite à écouter le podcast qu'on a fait ensemble dans cet atelier de la Bastille, justement.
Ah ouais, bah ouais, donc chez IEM.
Voilà, moi, j'ai été il y avait Arthur ans, de Pince aussi.
Voilà, donc moi c'était avant cette époque-là, j'étais avec Pénélope, Keck, Romain Hugo, Roger Hunter et Boulet a un peu passé un moment, mais pas très longtemps. Après, donc on est tous un peu partis et maintenant il y a d'autres personnes. Et en fait, j'ai fait cette BD en atelier pendant 5-6 ans. Ouais, de 2011 à 2016, dans cet atelier-là. Et ça m'a sauvée, parce que d'avoir des collègues, de se stimuler mutuellement... Enfin, moi, j'ai mis 6 ans à faire une BD. Pendant ce temps-là, les autres, ils ont fait 4 BD, quoi. Donc, c'était des espèces de voitures de course. Moi, j'étais là, tortue asthmatique, à désespérer. Et je travaillais sur table lumineuse, tout au crayon, en technique traditionnelle, quoi. En découpant mes petits papiers, en refaisant 15 fois une case. Et ce qui est marrant, c'est qu'en réécoutant le podcast de Camille Jourdi, justement... Avant que tu arrives, je voyais qu'elle disait qu'elle travaillait beaucoup d'après photo et qu'elle fait poser les gens autour d'elle et tout. Mais moi, c'est le contraire, je ne regarde jamais une photo. C'est-à-dire que c'est l'idée du Vietnam que j'ai dans ma tête. C'est l'idée de, là, je fais des livres pour enfants avec des taupes, c'est l'idée de la taupe.
Mais c'est quand même à partir de dessins que tu as fait sur place quand même.
Ah non, pas du tout.
Tu disais que tu avais pas mal dessiné quand tu y étais.
Non, j'écrivais. Quand j'étais là-bas, j'écrivais énormément. Je pouvais, à la limite, de temps en temps, faire un petit portrait d'une petite fille que j'aimais bien et tout ça.
Ah oui, donc tout ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a dans ta tête.
Que reconstitué dans ma tête.
T'es pas allé chercher des photos sur Internet
Non,
même quand t'es à Saigon?
Ah non, pas du tout. Après, je dessinais les choses et après, une fois que j'avais dessiné les choses, je me disais, allez, je vais aller voir si le bar dont je parle, il ressemble à ça. Il y avait une photo sur Internet et effectivement, ça ressemblait. Saïgon, j'avais à l'époque, j'avais un Kodak. Donc moi, je faisais des petites photos, des trucs comme ça. Elles étaient toutes nulles. Mais voilà, je pouvais avoir effectivement ma petite pochette de photos Kodak où je savais qu'il y avait un mec qui tenait, comment on appelle ça, des petits moulins à vent, là, à un carrefour de Saïgon. Et j'avais ce mec qui m'avait interpellé, je l'avais pris en photo. Et donc j'ai cette photo-là, et du coup, oui, j'intègre le mec qui tient des moulins à vent au milieu du carrefour de Saïgon. Mais sinon, rien, j'ai ni l'architecture, ni l'anatomie, ni les lieux, ni rien ne sont d'après photo, quoi.
Quand j'ai lu ces 20 pages donc, qui font suite aux brumes de Sapa, je me suis dit que ça aurait pu faire un bouquin nettement plus long, en fait.
Ça aurait pu, mais ça a pas, pour moi, ça n'a pas d'intérêt, parce que c'est une redite, j'ai pas envie de revenir en arrière. J'avais juste envie de lui redonner la parole, en fait. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle ait pour une fois la parole, que ce soit pas moi qui l'ai.
En même temps, il y a eu tellement d'événements que c'est une matière histoire.
Oui, mais en fait, mon but n'est pas non plus de faire de l'autobio. Pour moi, ça reste de la note de blog, là, le supplément. C'est... Et surtout, en fait, j'ai trop de projets qui m'accaparent. J'aurais pas le temps, je suis tellement lente. Je pense que ça fait pas un album entier. Ça se tient pas artistiquement. Ça pourrait se tenir en termes de, ouais, de note de blog.
Moi, je note quand même qu'à la fin, tu as écrit le mot fin, mais avec un point d'interrogation.
Bien sûr, parce que bah, on est vivante. Hein. On est vivante, il peut encore nous arriver mille choses. Et que peut-être... Là, déjà, on était tellement émus le jour où elle m'a envoyé toutes ses coordonnées pour pouvoir signer son contrat. Et qu'elle a signé son contrat, parce que j'ai négocié, évidemment, pour qu'elle ait une avance, qu'elle soit payée pour sa postface et tout. Et voilà, et elle était hyper émue de signer son premier contrat. Elle m'a dit « Ah, je suis trop excitée, Lolita, c'est mon premier contrat d'édition. » Et je lui dis « Mais ça m'a fait pleurer. » Ça, quand je sais qu'on s'est connus quand elle avait 12 ans et moi 22, et que 20 ans plus tard, on arrive à collaborer sur un livre, ça touche.
Dans l'atelier BD de Lolita Séchant.
À côté des brumes de Sapa, il y a donc les bilobas.
Alors, ouais. Je pense que vous allez entendre mon ventre gargouiller.
Tu as faim ?
Ouais.
Il n'est pas très tard pourtant.
Non, non.
Mais le petit déjeuner peut-être loin, puisqu'on enregistre ce podcast en matinée. Non, ça va, on n'entend pas ton ventre gargouiller. Mais ton café doit être froid par contre.
J'adore, c'est ce que je préfère.
Donc, on va parler maintenant de cette famille de taupes qui s'appelle les bilobas. D'abord sur le nom, biloba, ça vient d'où ?
Alors les bilobas, ça vient du Ginkgo biloba, qui est encore une histoire sombre, mais en fait, au moment de l'explosion... de la bombe nucléaire à Hiroshima, tout a été évidemment rasé et les gens sont morts. Et le seul être vivant, organisme vivant qui a survécu, c'était un Ginkgo biloba. C'est un arbre centenaire, c'est le plus ancien des arbres en fait. Et qui a, je crois, 12 millions d'années ou un truc comme ça. Donc c'est la seule chose qui a résisté à l'explosion nucléaire. Et moi j'ai toujours été fascinée par cet arbre, déjà parce qu'il est japonais, aussi parce que c'est ce qui résiste à la destruction, et que j'ai toujours travaillé sur ça, justement, sur l'idée de comment faire résilience, en fait, qu'est-ce qui reste. Et quand j'ai fini Les Brumes de Sapa, que j'étais, après 5 ans de travail, à lutter pour raconter mon histoire, ne pas trahir l'otigome, le dessiner surtout concrètement, parce que c'était vraiment dur à dessiner vu que j'avais pas appris, quand j'ai fini ce travail-là, ma mère, elle m'a dit « Mais arrête tes entreprises comme ça au long cours, fais des trucs simples. Quand t'étais petite, t'étais obsédée par les taupes, tu dessinais que des taupes, alors dessine des taupes. » Elle m'a dit ça, ouais.
Quand t'étais petite, tu dessinais des taupes, c'est original.
Ouais, je dessinais des taupes. En fait, mon père m'avait appris à dessiner une taupe qui sort du trou et qui avait ses lunettes genre à 10 cm et qui cherchait ses lunettes et qui les trouvait jamais. Donc je dessinais des taupes tout le temps. Je dessinais des petites théières avec des maisons dans les théières. Il y avait des petites taupes, des petits écureuils, des trucs comme ça. Et ma mère, elle m'a dit, fais des trucs légers, va vers ce que tu faisais quand t'étais petite. Au début, je me suis dit, c'est complètement con, je vais pas dessiner des taupes, c'est moche. Et puis, je me suis mise à dessiner des taupes. Et surtout, à ce moment-là, je suis allée voir un spectacle de Philippe Ken, qui est un metteur en scène de théâtre que j'adore. Et lui, il avait un spectacle où il y avait des gens en costume de taupe. Absolument magnifique, mais un peu flippante. Et tout le spectacle, c'était ces taupes qui construisaient des choses et tout ça. Il m'a demandé de dessiner un truc pour lui, donc on a échangé un peu sur ça. Et à un moment, on s'est dit peut-être que je pourrais dessiner ces taupes. Et en fait, c'est vite tombé à l'eau. Et je lui ai dit, mais est-ce que ça te dérange si je continue à dessiner une taupe ? Et il m'a dit pas du tout. Et donc j'ai dessiné mes taupes, mais je les ai fait complètement dévier. Elles n'étaient plus du tout à l'image des taupes de Philippe Ken, qui avait un côté beaucoup plus sombre et politique. Et moi, j'ai commencé à faire des petites taupes comme pourrait être une famille de... Ernest et Célestine, quoi. Enfin, il n'y a pas de famille dans Ernest et Célestine. Mais... Enfin, voilà, c'était un peu
Béatrix
Potter, c'était une famille.
Quoi. Les bilobas, c'est une famille de taupes, donc.
Ben, je me suis dit, en fait, je vais aller explorer la famille de manière légère. Et je me suis dit, je vais faire une famille de taupes. Et ça va me prendre un an, deux ans, et ça sera fini.
Au-delà de la famille, du côté léger, hein, c'est surtout pour enfants, quoi.
Mais ça, je me suis jamais posé. En fait, je me dis jamais c'est pour enfants ou pour adultes. Je me dis, dans une certaine forme, j'aimerais traiter de la famille. Et donc, quand j'ai commencé à proposer l'histoire de la famille Biloba à mon éditeur Thomas Gabizon, qui est chez Actes Sud, qui est l'éditeur de Camille Jourdi aussi, que je connaissais depuis que j'étais ado, parce que c'était mon libraire dans la librairie où j'allais acheter des BD pour me réfugier tous les week-ends, pour fuir un peu des angoisses familiales, des choses comme ça. J'allais dans sa librairie, il était libraire là-bas. C'est lui qui m'a fait découvrir Routou Modane, justement Camille Jourdi après et tout ça. Et donc, 25 ans plus tard, j'arrive et je lui dis, est-ce que tu voudrais qu'on travaille ensemble sur la famille? Je te propose une famille de taupes et je te propose qu'à chaque livre qui sort, ça change d'âge, ça change de public et ça change de format. Donc au début, j'ai cru que c'était une histoire qui allait être facile et courte. Et en fait, je pense que ça va me prendre toute ma vie parce que là, par exemple, je travaille sur un autre livre de la famille Biloba, mais c'est un roman graphique qui va faire 150 pages et que j'essaie d'adapter en dessin animé en plus et tout. Donc en fait, je me suis encore lancée dans un truc interminable, quoi.
Pour l'instant, il y a trois livres qui, eux, là, sont assez courts.
Oui.
Tu as posé ces univers. Alors, puisque quand même cette personne a été citée à maintes reprises, et d'ailleurs derrière toi, il y a l'intégrale de ses bouquins, de Camille Jourdi, qui a fait l'objet du précédent podcast, donc crossover de podcast. Elle a parlé de toi, de cette amitié qui est à la base, c'est votre éditeur dont tu parlais un instant, qui vous a fait vous rencontrer. C'est ce que raconte Camille dans son podcast. Tu le confirmes donc?
Oui, je le confirme. Et il a des visions comme ça.
Et ça a accroché tout de suite.
Bah oui, en fait, Thomas, c'est vraiment, à mon sens, c'est le meilleur éditeur aujourd'hui. Moi, déjà, ces BD, les BD qu'il publiait étaient les BD que je préférais. Et quand je suis arrivée dans la bande dessinée, après avoir fini Les Brumes de Sapa, je voulais vraiment... J'ai retrouvé Thomas dans ma vie, et donc le dialogue avec lui, il est vraiment particulier. Et je pense que ce qu'il arrive à faire avec Camille, ben voilà, moi, j'ai besoin du dialogue avec Thomas. Et en fait, dès que je lui ai proposé l'histoire de la famille Biloba, il m'a dit... Il faut que dans cette... Il a adoré l'idée d'explorer comme ça différents formats. Il a dit, il faudra qu'il y ait des livres à quatre mains. Parce qu'en fait, tu te crées ta famille. Tu parles de la famille, mais tu te crées ta famille. Et en te créant ta famille, en fait, on va faire une famille d'auteurs et d'autrices. Et donc, le premier, il m'a dit, il faut absolument que ce soit Camille. Parce que vous avez des points communs, vous vous êtes déjà croisés, mais...
Ça saute assez aux yeux. Vous avez des points communs graphiques, même si elle est en couleur et que toi, tu fais uniquement du noir et blanc. Mais dans la minutie des dessins, dans les attitudes des personnages, il y a un vrai cousinage.
J'arrive pas à me dire ça parce que j'aime tellement ce qu'elle fait et que je la trouve tellement virtuose que moi, j'ai pas cette confiance et je me dis pas qu'on a un dessin similaire. Mais par contre, effectivement, on a des thèmes en commun, je pense.
Pas similaire, mais...
Oui, il y a des univers, évidemment. On est des petites filles qui avons adoré chercher... dans un grand dessin, où est la chaussette perdue, quoi? Où est le petit nounours caché sous le lit? Enfin, du coup, on met ça dans nos BD. On aime
bien, Charlie.
Voilà. Et on aime mettre ça, des petits détails, des petits riens. On a aussi un regard sur la nature, je pense, en commun, et beaucoup sur la famille, comment vivre ensemble, chacun avec ses problématiques, les secrets de famille, l'héritage, enfin, tout ça. On a des points communs, et Thomas, il l'avait vu depuis le début, évidemment. Et il a voulu nous associer. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est tombé en plein confinement, donc on l'a fait à distance. Moi, ça m'a sauvé mon confinement, parce que de recevoir les images en couleur de Camille, c'était comme une bouffée d'oxygène. Elle m'a sauvé, je peux le dire. Et voilà, on aimerait bien refaire, mais...
Ce qui est rigolo, d'ailleurs, c'est que l'affiche qui est derrière toi de Caché ou pas, j'arrive, le bouquin que vous avez fait ensemble avec Camille, la même affiche est dans son atelier.
Bah ouais, mais c'est
exactement
notre expo.
Exactement la même.
C'est notre expo à Angoulême, en fait. On a eu la chance de faire une expo à Angoulême. Elle avait pas envie de travailler dessus parce qu'elle disait qu'elle ne savait pas faire, mais je pense aussi qu'elle avait d'autres boulots à côté et tout. Et comme moi, je suis un peu dans le contrôle et qu'on m'a proposé donc de concevoir l'expo avec Stéphane Beaujean qui était curateur d'expo. Du coup, on l'a faite ensemble et Camille, bon, évidemment, on la tenait au courant et tout ça. Et moi, j'ai adoré mettre en vis-à-vis justement son travail et le mien et arriver... c'était un émerveillement, quoi, de voir les planches de Camille, de sélectionner qu'est-ce qui était le mieux pour parler de son travail.
Crossover de podcast, mais aussi crossover d'univers, hein, dans Caché ou pas, j'arrive, parce qu'il y a tes personnages, les Biloba, les taupes, et puis il y a son personnage à elle qu'on voit dans Les Vermeils.
Bah, c'était l'idée de Thomas, donc l'éditeur, c'était en fait de prendre son petit personnage de Nook dans Les Vermeils, la petite fille chat que moi j'adorais, et de la faire jouer à cache-cache avec mon personnage de Bartok Biloba, qui est le petit garçon taupe, le petit frère de la famille. Et donc c'était un cache-cache entre deux autrices, et c'était un cache-cache entre deux personnages. Ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes le livre, t'as l'impression qu'en fait, c'est elle qui a fait tous les décors et moi les personnages. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est
elle vraiment, raconte que vous avez fait les décors ensemble. Ouais. Elle fait les couleurs, en revanche.
Elle a fait toutes les couleurs, évidemment. Mais en fait, on a tout dessiné ensemble, vraiment. Il y a eu un ping-pong. Enfin, c'est ce qu'elle racontait. C'est que on a écrit l'histoire ensemble, on a découpé ensemble. Ensuite, elle a fait un premier storyboard rapide. Ensuite, elle m'a envoyé donc ce premier storyboard au crayon. Moi, j'ai redessiné tout à la table lumineuse, vraiment en détaillant tout, la moindre feuille, le moindre petit détail, le petit personnage dans l'image et tout ça. Je lui ai envoyé. Elle le mettait sur sa table lumineuse. Elle redessinait tout à la couleur en rajoutant des détails, des blagues et des choses comme ça, des clins d'œil. En ayant enlevé les deux personnages principaux, Elle retravaillait tous les autres autour, les autres personnages et le décor. Et moi, en recevant sa couleur, le dessin définitif en couleur avec nos trucs qui avaient bougé de son travail à elle, bah moi, je réintégrais les deux personnages principaux en noir et blanc. Donc en fait, je les faisais courir dans le décor de Camille, mais en ayant conçu toute l'image avant, ensemble.
Alors le problème aujourd'hui, c'est que tu le disais, t'es lancé dans un roman graphique avec tes taupes, avec les bilobas de longue haleine. Camille aussi, elle est repartie sur un roman graphique extrêmement important. Donc on se dit que Lolita Séchant plus Camille Jourdi ensemble, ça va pas être pour demain.
Bah je sais pas. Parce
alors que ça fonctionne, pas mal.
Bah oui, on adore en fait, on aime bien parce que... Enfin, en tout cas, moi je sais qu'en tant qu'autodidacte, plonger dans le dessin de Camille, ça m'a appris 10 fois plus que n'importe quelle école aurait pu m'apprendre, je pense. C'est assez intimidant aussi. De mêler les dessins, enfin, il y a quelque chose d'impudique, et puis il faut trouver sa place et tout, c'est pas évident. Mais elle est tellement cool, tellement gentille, enfin, on s'entend vraiment bien, on s'appelle maintenant régulièrement pour se dire quelles sont nos angoisses, quels sont nos blocages, qu'est-ce qui nous fait marrer. Il y a pas longtemps, on s'est même dit qu'on avait envie de faire une thérapie de couple d'amis, juste pour. Parce que moi j'adore les psys et tout ça, et je lui disais que la seule chose que j'avais pas faite dans ma vie, c'était les thérapies. Avec des amis. Donc elle me dit « Ah mais on pourrait tenter ça, comme ça, on verrait ce qui bouge. » Je lui dis « Mais nous deux, avec un psy de couple, on va le rendre dingue, je pense. » Parce qu'on n'a pas les mêmes folies, mais on a quand même des petits grains.
Pourquoi tu t'es jamais aventuré sur la couleur? Est-ce que c'est une envie que tu as?
Parce que je suis limitée, qu'en tant qu'autodidacte, tout est laborieux. Il n'y a jamais rien d'acquis, il n'y a jamais rien de facile. Bah, de toute façon, dans ma vie, c'est toujours comme ça. Je me réveille le matin, j'ai mal de la tête aux pieds, j'ai un corps douloureux. Donc toute la journée n'est qu'un tunnel pour arriver à faire ce que je dois faire tout en ayant mal. Et le dessin, c'est pareil, c'est-à-dire je maîtrise à peu près le crayon et le rotring, quoi. Donc si je m'aventure dans la couleur, en fait, ça va me prendre 20 ans. C'est pas possible. Déjà que c'est un métier long et solitaire et que j'ai plein d'histoires que je veux raconter, donc je vais pas vers ça. Ma prochaine BD, normalement, elle est en couleur. Donc la question, ça va être est-ce que je vais essayer ? Mais je pense pas, parce que sinon je serais ménopausée avant qu'elle sorte. Ou est-ce que je vais trouver quelqu'un? Et évidemment, notre éditeur aimerait beaucoup qu'on continue la collaboration avec Camille et qu'on éventuellement on fasse ça. Mais comme tu dis, on est toutes les deux sur nos gros projets, quoi.
Depuis qu'on parle tout à l'heure, tu as un espèce de gros chat en peluche sur les genoux.
C'est mon chat obèse. C'est mon chat de Tokyo. Ouais, parce qu'en fait, comme j'ai mal partout... Et que...
Là, c'est dur, ça va faire une heure qu'on parle et...
Ouais, mais c'est juste que je gigote, donc j'ai besoin de me caler. Donc je me suis calée avec un gros chat.
Tu es très présente aussi sur les réseaux sociaux.
Bah, moi, j'étais une fille du Minitel. Hein. J'étais sur Minitel Rose quand j'avais 14 ans.
Comment ça?
Ah bah, sur 3615 Villa. C'est quand j'ai découvert le Minitel, je me suis dit, mais un monde s'ouvre à moi, je peux chatter avec des gens que je connais pas. Donc j'étais sur 3615 Villa et 3615 Cum. J'avais mon pseudo, c'était Video Girl Eye. C'était le nom d'un manga que j'adorais. Et je me connectais et je chattais avec des gens. Alors après, parfois, ça dérivait sur des petits pervers qui voulaient qu'on les appelle avec mes copines au téléphone. Mais... Donc voilà, on parlait des heures de manga et de tout ça. Et un jour, j'ai compris, en allant déjeuner chez mes grands-parents paternels, que mon grand-père aussi était sur Minitel Rose. Et quand ma grand-mère a gueulé en disant « Ouais, tu fais chier avec tes putes du Minitel !» Je me suis dit oh, « Mon grand-père est sur Minitel. Mais ça se trouve, je chatte avec lui, donc faut que j'arrête.
» Ah, tu m'étonnes que t'as des névroses après ça.
Ouais, grave. Bah ouais, on a un stock. Mais non, après je suis rentrée dans les blogs, j'écrivais des chroniques. J'ai toujours aimé cet outil en fait de mise en scène. C'est pas du tout pour faire de la pub, honnêtement, il y a plein de gens qui l'utilisent. Aujourd'hui, je sais qu'Instagram c'est un vrai outil de promotion, que même les éditeurs ou même dans la musique, tout le monde compte sur le fait que les artistes vont faire leur promo tout seul. Pourtant on n'est pas payé pour ça, hein. Normalement il y avait un budget hein, pour la promo. Mais voilà, ils comptent sur le fait qu'Instagram, ça, c'est un outil de promotion et pour nous faire vivre, en fait, parce que c'est vraiment dur de vivre de la BD. Moi, je l'utilise pas pour ça. Je l'utilise parce que c'est un médium qui me permet de faire de la mise en scène aussi.
Tu mets beaucoup de photos, forcément, hein, c'est Instagram, c'est des photos. Il y a un goût de l'image hein, en photo aussi.
Il y a les photos, mais en fait, c'est les stories qui m'amusent. Les photos, c'est toujours des moments de vie, en fait, pour pour mettre des petites pierres, voilà, un jour de regarder en arrière et de voir, ah oui, l'expo avec Camille Jourdi à Angoulême, ou des photos du Japon, de petits détails qui me plaisent et tout ça, mais, ou quelques dessins, parce que c'est vrai qu'en fait, Instagram, ça détruit, quoi, c'est vraiment tellement chronophage, et en même temps, ça crée une communauté d'artistes. Et c'est vrai que quand on met un dessin et qu'on est déprimé, on a toujours des collègues qu'on n'a jamais vus en vrai et en fait qui nous renvoient tellement de trucs sympas, tellement de bienveillance que ça nous booste pour continuer à bosser sur nos BD tout seul dans notre coin. Mais par contre, c'est les stories qui m'amusent. Moi, c'est faire des chroniques de voyage, aller faire de l'humour, du décalage avec l'outil de la séquence de 10 secondes en fait qui permet...
Donc raconter une histoire avec, ouais. Avec cet outil-là.
Ouais, c'est vraiment raconter des histoires. C'est pas... Après, ça peut être un peu narcissique, mais j'essaie toujours de mettre du décalage, quoi, mais... Je parle de mes plantes, de mon chat. Et...
Devant toi, sur ton bureau, il y a deux pages de ton prochain projet dont on peut dire un mot. Donc, tu l'as déjà un peu dit tout à l'heure. Les deux pages que je vois là, sous mes yeux, on mettra une photo si tu en es d'accord. C'est très, très déstructuré. C'est pas le gaufrier habituel de la BD franco-belge qu'aime ton père. C'est très, très déstructuré. Comment... Les bilobas, pour l'instant, c'est des histoires très courtes. Hein. Là, comment on passe d'une histoire très courte à une très 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 longue
Alors
histoire ?
Alors là, les pages que tu vois, c'est vraiment pas une séquence. Je vais pas les montrer en photo parce que c'est la séquence cruciale du livre. Que cette séquence me donne du fil à retordre depuis 6 mois.
Je ne dirai rien alors.
Mais vraiment, j'ai bloqué sur cette séquence. C'est en ça que c'est un travail de fou, quoi, parce que ça fait 6 mois que je bloque sur cette séquence en fait. Elle me rend dingue. Donc oui, c'est un passage de la BD très déstructuré parce que c'est une histoire d'horreur au milieu de la BD. Donc elle était très importante et elle a une narration très différente du reste. Le reste, ça reste c'est un roman graphique, même format que Les Vermeils de Camille Jourdi, parce que c'est dans la même collection, c'est Thomas Gabizon, c'est un roman graphique jeunesse. Moi, c'est pour les 10-12 ans, je dirais. Et en fait, je me penche cette fois-ci sur les deux sœurs Biloba, donc de la famille, et je parle des premiers chagrins d'amour et des premiers deuils. Donc je parle de la mort et de l'amour. Et j'explore avec les deux sœurs, en fait... Avec une sœur, c'est une espèce de grande scène de théâtre où se joue la mort, c'est-à-dire elle enterre des animaux, elle fait un petit cimetière, et avec tous les amis qui se greffent, ils vont faire des rituels païens, ils vont jouer à se faire peur, en fait, mais avec beaucoup de joie. Et à côté de ça, en parallèle, il y a la grande sœur, Daria, qui, elle, vit son premier chagrin d'amour. C'est comme une espèce de grand travelling où on la suit, elle, en solitaire, s'enfoncer dans la forêt et revisiter par tous les lieux qu'elle visite son chagrin d'amour, son premier chagrin d'amour en tant qu'ado. Et en fait, je voulais parler de la perte, du deuil, et de ce que je disais au début, c'est de ce passage, en fait, de l'enfance à l'adulte, de ce qu'on doit lâcher pour avancer, de ces premières pertes qu'on a. Et puis, je voulais jouer, voilà, parler de sujets graves, mais avec légèreté et l'inverse. Donc, c'est ça. Et là, la séquence que tu vois, elle est, bah, voilà, c'est un peu la scène.
Tu vas t'en sortir ?
J'espère. Je commence à m'en sortir, mais très sincèrement, c'est laborieux.
Tu dis que t'es lente, hein, mais il va falloir que tu le rendes. J'imagine que t'as le bouclage, puis t'as déjà fait beaucoup de pages en réalité.
Bah, j'ai 100 pages de storyboard sur 130, donc j'arrive au bout. Mais avec Thomas Gabizon, on n'a jamais de deadline. Donc, parce qu'il sait que ça prend le temps que ça prend. Cette histoire d'horreur au cœur du récit, je l'ai écrite 10 fois, je pense. Avec à chaque fois, en cherchant un peu plus ce que je veux vraiment dire. Ce qui me fait vraiment peur à moi, comment faire peur aux enfants sans les traumatiser, mais en allant au plus près de ce que moi, inconsciemment, vraiment je veux dire, quoi. Et c'est très long, parce qu'en fait, on passe par toutes les étapes. C'est comme effeuiller une fleur, en fait. C'est la première version de l'histoire d'horreur, bah, ça va être ce qui fait peur, c'est un chasseur, ou ce qui fait peur, c'est la mort. Et en fait, au fil, c'est comme tailler dans se rapprocher de l'os, en fait. Plus on se rapproche, plus on se rend compte qu'en fait, ce qui nous fait peur, c'est la menace qui arrive au cœur de la famille. Et ça, j'ai mis 10 versions de l'histoire avant d'arriver à dire ça.
Est-ce que le processus créatif, pour toi, c'est quelque chose d'heureux ou de douloureux ?
Douloureux, comme tout. Pas heureux, non. Heureux, enfin, ça, je sais pas vraiment.
Est-ce que tu es très enthousiaste quand tu es en train de dessiner ?
Pas du tout.
Est-ce que tu es,
Non. Par contre, je suis très impliquée physiquement. C'est-à-dire, c'est que instinctif. C'est que je tâtonne. C'est comme une psychanalyse, en fait. Sauf que sans forcément verbaliser. Donc... En fait, il faut que, comme disait Camille, quand elle parlait de notre travail ensemble, c'est moi, je détaille énormément le storyboard. Là, tu vois, la version du storyboard, elle est quasiment définitive. Après, je vais devoir me refaire encore un an et demi d'ancrage derrière. Mais j'ai besoin de savoir exactement l'atmosphère de ma planche, exactement ressentir le mouvement physique de mon personnage, le vent dans les feuilles. J'ai besoin de sentir les choses physiquement, charnellement. Et donc, c'est hyper long. généralement, tout est dur et laborieux. Maintenant, j'ai appris à m'arrêter, à mettre plusieurs planches devant moi et à me dire « Ok, c'est cohérent, ça marche ». Sinon, si je m'arrête sur chaque case, je vais me dire « Ah, c'est nul, c'est nul, c'est nul ».
Ton éditeur te le dit aussi, j'imagine, à un moment.
Mon éditeur me le dit. J'ai du mal à lui montrer au fur et à mesure parce que j'ai peur de son jugement. J'ai peur qu'il me dise « Il faut tout refaire ». Après, je m'inquiète quand il me dit qu'il ne faut pas tout refaire. Parce que maintenant, il me dit moins qu'il faut tout refaire, donc ça m'inquiète vachement. Du coup, je me demande autour de moi « Mais tu trouves ça normal qu'il ne me dise pas de tout refaire et tout ?» Et donc, j'accepte qu'effectivement, c'est peut-être bien. Maintenant, il y a un truc qui... Je vais plus vite au but, je pense. Et aussi, je sais que mon compagnon travaille aussi dans la BD et il a un regard aussi, il m'aide énormément. Enfin, il y a un regard éditorial aussi. Et c'est pas du tout le même travail parce que comme on est intime, il m'aide à m'approcher de ce que je veux dire d'une autre manière, mais c'est très précieux, quoi.
Tu passes beaucoup de temps dans ton atelier ?
Avec les douleurs au dos et tout ça, je peux pas rester assise très longtemps, donc j'ai besoin de bouger. Je suis aussi quelqu'un qui a besoin de flâner. En fait, je me nourris des moments où je suis loin, ou que je marche, où j'ai besoin d'accumuler des choses, de la matière. Plein de petits signaux faibles, chaque histoire naît d'un truc que j'ai vécu en voyageant. Et donc j'ai besoin de remplir ça. Et alors après, parfois j'ai des phases voilà, où je suis du matin au soir dans mon atelier à dessiner, quoi. Mais il y a quand même des grandes pauses, en fait. Il y a des grands moments de blocage.
On a pas mal parlé de ton père pendant cet entretien. Est-ce que tu aurais envie de raconter son histoire, qui est évidemment une histoire extraordinaire, celle de ton père ? Est-ce que tu y as pensé ?
Non, pas du tout. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, raconter l'histoire de mon père, tout le monde le fait, plus ou moins bien.
Ça vient d'être fait d'ailleurs.
Ouais, je sais. Bah, je sais parce que je l'ai corrigé, la BD. Pour moi, pour moi et pour lui, en fait, c'est assez violent de lire des choses sur nos vies parce que c'est forcément faux, même si c'est vrai dans les faits. Et voilà, c'est intrusif. Donc, comme on n'interdit pas aux gens de faire des créations, on leur interdit pas. On regarde pour qu'il n'y ait pas de bêtises dites. Mais c'est intrusif, ça ne nous apporte rien en fait. Pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit on veut lui faire le cadeau d'écrire sur sa vie. Je lui ai dit mais c'est pas un cadeau. Enfin, je veux dire, c'est sa vie lui. Donc, c'est pour vous que vous faites un cadeau. Lui, c'est sa vie. Quand on la raconte, on la simplifie. Donc non, ça ne m'intéresse pas du tout, je ne suis pas du tout sa biographe.
Et pourtant, il est dans tes albums, dans Les Brumes de Sapin, il revient souvent, dans Marshmallow, il est là.
Mais parce qu'en fait, c'est la figure du père et de la mère. Ma mère est là aussi, comme
oui,
Camille, et son père est là, sa mère est là.
Il y a même eu un travail que tu as fait d'ailleurs avec ta maman sur enfance à Saint-Gratien.
Voilà, c'est la deuxième partie de ma réponse, c'est qu'en fait, non, raconter la vie de mon père ne m'intéresse absolument pas. Je veux dire, ça serait vraiment... l'opposé de tout ce que j'ai essayé de construire aujourd'hui, c'est-à-dire de me détacher, de créer mon propre domaine, mon champ d'action, mon champ d'expression. Et surtout, tout le monde peut le faire à ma place, ça n'a aucun intérêt. Et aussi, il y a aussi des choses, c'est que mon intimité a toujours été publique. Beaucoup de notre intimité a toujours été publique, donc il y a des choses qu'on veut garder privées, et ça, il y a des choses qu'on ne racontera jamais, parce que ça nous appartient. Mais par contre, travailler sur la famille, ça m'intéresse, même ça me passionne. Et je sais que j'ai eu la chance de faire une expo sur l'enfance de ma mère à Saint-Gratien. On m'a proposé de faire ça. Et j'ai accepté parce qu'elle avait vécu à Saint-Gratien, justement. Et que ça me permettait de raconter, en fait, son émancipation. C'est la même chose qu'avec Les Brumes de Sapa. C'est comment ma mère est passée de son milieu de naissance, en périphérie parisienne, à le choix de sa vie d'adulte. Donc j'ai raconté ça en lui demandant de me raconter le Saint-Gratien de son époque, à travers tous ses souvenirs, qui étaient un peu flous, parce qu'elle a une mémoire à trous, comme tout le monde. J'ai reconstitué la ville de son enfance, mais sans regarder rien non plus, sans aller à Saint-Gratien non plus. Donc j'ai reconstitué la ville imaginaire basée sur des souvenirs flous. Et ça, c'était un projet que j'avais sur mon père aussi, depuis longtemps. C'est-à-dire que je voulais reconstituer la périphérie parisienne, parce qu'il vivait dans un immeuble de fonction de son père en périphérie parisienne, Porte d'Orléans, quand il était petit. Et j'ai toujours eu ce projet de reconstituer les années 50 et 60, de l'enfance de mon père dans sa famille, jusqu'à ce qu'il en parte. Mais donc juste avant que tout ce qui intéresse tout le monde se passe, c'est-à-dire avant qu'il devienne célèbre, avant que ça ne m'intéresse pas du tout, moi, cette partie-là. Et moi, c'est de ça dont je veux parler, c'est comment Paris a changé, comment les immeubles se sont construits, les terrains vagues ont été remplacés par des stades, quelles étaient les énergies entre les frères et sœurs dans sa famille, Et vu que je l'ai fait pour ma mère, maintenant j'ai envie de le faire pour mon père, mais... C'est le prochain projet.
On va terminer cet entretien, Lolita, avec les petites questions traditionnelles et tes choix. On va commencer par une chanson ou un album de musique.
Alors, une chanson, bah, j'en écoute tout le temps, donc je ne sais pas trop quoi dire. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je trippe sur une chanson parce que j'adorais Bruce Springsteen quand j'étais petite. mon père me faisait beaucoup écouter, et surtout Dancing in the Dark. Et c'est marrant parce que c'est en écoutant, à l'époque où j'ai commencé à travailler sur le Grand Chagrin, donc ma BD sur les premiers chagrins d'amour, c'est parce que moi-même, donc en 2019, je traversais un petit chagrin d'amour, et j'ai commencé à créer une passerelle entre ce que je vivais à ce moment-là et des échos de mon enfance, de choses comme ça, sur des phases de perte, de deuil. Et en fait, j'écoutais Dancing in the Dark tout le temps, parce que dans la chanson, il dit qu'il est là et qu'il n'en peut plus de lui-même, et qu'il est assis dans une pièce et qu'il devient fou à être juste face à lui-même et qu'il a besoin de sortir. Et il dit « j'en peux plus de ce livre, j'ai envie de le jeter par la fenêtre et j'ai envie de sortir et de vivre, en fait. » Et là, en ce moment, je l'écoute, mais dans une version d'une fille qui s'appelle Biz Coletti. Je ne connais pas du tout. Et c'est une version beaucoup plus douce de Dancing in the Dark, et je l'adore.
Un film ou une série ?
Je regarde beaucoup de films d'horreur avec ma fille, parce qu'elle a enfin l'âge d'en regarder, et moi je suis une grande fan de films d'horreur, et d'horreur en général. Et on a regardé tous les Aliens, et c'est un plaisir absolu de redécouvrir la mise en scène du premier Alien, et de l'avoir tripé autant que moi sur ça, quoi.
Alors c'est interdit aux moins de 12 ans, mais elle a 12 ans, donc ça tombe bien.
Elle regarde bien pire, hein, mais bon, c'est cette génération-là.
Elle a pris peur, même si le film il est vieux, hein, il date de 1980, elle a eu peur quand même, ça marche toujours, Alien.
Ah, ça marche toujours parce que c'est de la mise en scène, enfin, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Enfin, le premier surtout, après les autres ils sont super aussi, mais non, elle adore, on décortique, on regarde aussi les Hitchcock, après elle peut regarder aussi Rec et d'autres films d'horreur plus contemporains, mais on voit que dès qu'il y a de la grande mise en scène derrière, le film marque beaucoup plus.
Et enfin, une bande dessinée ou un livre, ou les deux.
J'ai repris un Zola. Je suis en train de lire La Bête humaine. Et c'est pareil, c'est... Qu'est-ce que ça fait du bien de lire de la grande littérature, quoi. Ne serait-ce que la scène d'intro de La Bête humaine, elle est incroyable. T'as envie d'en faire une BD. C'est là, il raconte juste un homme qui rentre dans une pièce, qui pose un bout de fromage sur une table, qui ouvre une fenêtre et qui voit les faubourgs en dessous de lui. Et la manière dont il décrit les odeurs, les sons qu'il entend, et cette pièce au printemps... Enfin, ça remplit tellement plus que 12 heures de binge-watching de série, quoi.
C'est
après,
sûr.
Je viens de re-regarder tout le Bureau des légendes, parce que j'ai une amie, Florence Loirecaille, dont j'adore le travail qui joue dedans, et je viens de tout re-regarder, parce que j'avais jamais vu la dernière saison. Et voilà, donc je viens de pleurer en voyant la fin du Bureau des légendes.
Elle est une BD, quand même ?
Une BD que j'ai adorée dernièrement. J'ai adoré Chumbo, de Mathias Lehmann. Chez Casterman, que c'est son histoire. Enfin, ça se passe au Brésil, c'est une histoire de famille. Et ben,
Lolita,
un manga.
Regarde sa bibliothèque,
non,
dans laquelle il y a beaucoup de bouquins.
J'adore aussi Le lierre et l'araignée de Grégoire Carlet, qui vient de sortir chez Air Libre, que je trouve magnifique. C'est un récit de guerre. En fait, il a interrogé son grand-père, qui était résistant pendant la guerre, et en Alsace. Et c'est sublime. Et aussi, je relis I'm a Hero, c'est un manga d'horreur sur des zombies au Japon.
Ton père chantait « C'est quand qu'on va où ?» Est-ce que tu sais maintenant « C'est quand qu'on va où ?»
Non, je ne sais pas c'est quand, si on peut dire en français. Je pense que c'est jusqu'à la fin de sa vie qu'on essaye d'aller quelque part. Mais c'est plutôt comment on vit en chemin, quoi. Essayer de trouver un peu de bien-être au milieu d'une réalité qui est quand même très anxiogène.
Marshmallow sur l'arrivée de ton petit frère a été publié chez Helium. Tes trois albums des Biloba à la famille Taupe sont chez Actes Sud. Et enfin, Les Brumes de Sapa, la nouvelle édition sortie l'année dernière, c'est chez Delcourt. Merci beaucoup, Lolita.
Merci.
Merci de m'avoir accueilli dans ton atelier. Et qu'est-ce qui rime avec atelier ? Bien sûr, c'est lisez des BD.
Exactement.